France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes, Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et désormais à la tête d'un nouveau journal, L'Audace, et Gilles Finkelstein, bien sûr, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui sur les tensions entre la Russie et l'Europe autour des questions des drones et de la désormais fameuse flotte fantôme. Et puis pour le débat, nous interrogerons la démocratie et la démocratie américaine en particulier avec notre invitée, professeure émérite à la Sorbonne. Elle connaît par cœur l'œuvre de Tocqueville, dont elle édite les œuvres complètes et une grande biographie, les deux chez Gallimard. La démocratie à la sauce Trump a-t-elle encore quelque chose à voir avec celle qu'observe Tocqueville dans les années 1830? Que dirait-il s'il se promenait dans les États-Unis près de deux siècles plus tard? Et que nous enseigne-t-il Tocqueville aussi sur notre démocratie à nous, ici en France? Nous poserons ces questions à Françoise Mélogneau, notre invitée pour le débat, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Nous sommes samedi midi 5 même précisément, en direct sur France Inter. L'actualité bouge très vite au Proche-Orient avec la probable libération des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza et peut-être une trêve, voire une paix. Tout cela est encore très hypothétique et on attendra sagement que la situation se stabilise pour y revenir largement la semaine prochaine. Mais juste, Natacha, quels sont selon vous les enjeux de la mise en œuvre du plan de paix américain et que doit-on observer dans les prochaines heures?
Alors d'abord, on va voir si, par exemple, Israël décide d'accepter l'idée d'un cessez-le-feu. Mmh. Mais surtout, ce qui me semble intéressant, c'est de regarder ce que cela va donner sur la coalition de Benjamin Netanyahou, puisque ça peut largement le fragiliser, et je me permettrai de dire que je pense que c'est la meilleure chose qui peut arriver pour Israël. Et deuxième élément qu'il faut regarder, c'est la nature de cet organe présidé par Donald Trump, qui doit donc contrôler l'organe international de transition, hein, qui doit contrôler un comité technocratique palestinien pour gérer la bande de Gaza.
Technocratique et apolitique.
Voilà, et apolitique, mais en fait, ça ressemble furieusement à tout ce que nous avions évoqué avec l'historien Quinn Slobodian.
Absolument.
C'est-à-dire ces espèces de zones franches,
ouais,
qui servent de paradis fiscal.
Sans démocratie.
On évacue la question de la souveraineté palestinienne, et ça, je pense que c'est éminemment problématique, d'autant plus que tout ça se marie avec la technologie. Par exemple, l'utilisation massive de Palantir par l'armée israélienne est un élément très intéressant dans ce conflit.
Et d'Oracle. Bref, aussi.
Voilà, on a là quelque chose qui dessine un avenir qui n'est pas vraiment le meilleur qu'on puisse imaginer.
Et l'un des enjeux d'ailleurs, c'est, et le Hamas a expliqué qu'elle souhaitait conserver une forme de souveraineté, en tout cas palestinienne, sur la bande de Gaza. On est sur un sujet très politique. Gilles, un mot peut-être là-dessus?
Oui, juste un mot. Si on regarde le tableau de loin, on est peut-être à un tournant quand on regarde à la fois la liste des signataires ou des soutiens, notamment des pays arabes, ou quand on regarde la description des différentes étapes du processus. Quand on regarde le tableau de près, ces détails qui ne sont pas des détails, on voit la multiplication des obstacles, et notamment l'opposition potentielle et du Hamas et du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Mmh. Et là, aujourd'hui, on est au moment où personne ne veut porter la responsabilité de l'échec et où peut-être chacun attend que l'autre trébuche. Donc, il y a quelque chose qui peut-être s'engager dans les prochains jours. Il faut espérer qu'il y ait suffisamment d'étapes pour que le processus soit irréversible. Aujourd'hui, ce ne sont que des balbutiements.
Et voyons si la pression américaine sur Netanyahou, qui semble inédite, est réelle et sincère. Ça, c'est les prochaines heures qui le diront.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Это пиратство.
C'est un acte de piraterie. Le pétrolier a été arraisonné dans des eaux neutres, sans aucune raison valable. Apparemment, il cherchait à bord des cargaisons militaires, des drones ou autre chose de ce genre. Il n'y avait rien de tout cela, et il ne pouvait y avoir quoi que ce soit. Mais de quoi s'agit-il réellement? Pourquoi est-ce si important pour la France? En raison de la situation politique difficile des dirigeants français, parce qu'ils n'ont aucun autre moyen de détourner l'attention de la population, des citoyens français, des problèmes complexes et difficiles à résoudre au sein même de la République française.
Vladimir Poutine, après l'interception d'un pétrolier de la flotte fantôme russe, ces navires qui permettent à Moscou de contourner les sanctions occidentales, le navire bourré de pétrole se dirigeait vers Suez. 30 à 40% de l'effort de guerre russe serait assuré d'ailleurs par les flux de cette fameuse flotte fantôme. Est-ce que c'est ce qui explique, Natacha, la nervosité de Vladimir Poutine qu'on vient d'entendre?
Alors, nervosité qui l'incite à essayer en effet de taper là où il pense que ça va faire mal vis-à-vis du gouvernement français et du président de la République. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'en effet, il y a là un jeu où chacun répond dans une montée en tension au sein d'une confrontation qu'on a bien identifiée. Je veux dire, les essaims de drones que l'on voit un peu partout et la réponse de la France pour montrer qu'on ne reste pas les bras ballants. C'est l'arrêt de ce pétrolier, Boracay, enfin qui a plusieurs noms, et qui donc, et c'est là ce qui est le plus important, allait du port de Primorsk en Russie vers le port de Vadina en Inde. Mmh. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'Inde est impliquée là-dedans. Alors, qu'il y ait de l'espionnage par les cargos russes, c'est un classique, ça existait pendant la guerre froide, hein, c'est une évidence. Là, le soupçon, c'est le rôle de ce pétrolier de la flotte fantôme dans les attaques de drones. Et le fait qu'il s'était arrêté et qu'il faisait des ronds dans l'eau, dans les eaux internationales, ce qui est important puisque Vladimir Poutine s'en sert évidemment pour qualifier cela d'acte de piraterie. Mais il faut remarquer une chose. Premier point, le capitaine du navire a été libéré, le cargo...
Il sera quand même poursuivi.
Bien sûr, il sera poursuivi. Mais le cargo, il sera poursuivi pour l'instant pour ce qu'on a pu établir, c'est-à-dire le soupçon de pavillon usurpé, etc. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc l'acte était pour l'instant essentiellement symbolique, mais il avait le mérite d'exister. Le problème, c'est que ce pétrole, déjà, reviendra en Europe, puisque nous achetons le pétrole russe qui est passé par l'Inde.
Et nous achetons des produits dont la production est permise par le pétrole russe. Mais donc il y a aussi une importation un peu déguisée par ce moyen-là.
Exactement. Et donc, en fait, toute cette affaire, hélas, montre aussi l'impuissance de l'Europe. On pourrait ajouter que l'usage des pavillons de complaisance, il est lié à la dérégulation du droit maritime pour permettre le libre-échange, la division mondiale du travail. 70% de la flotte mondiale est sous pavillon de complaisance. Mmh. Il faut quand même comprendre. Donc, nous avons facilité, en fait, les actes de, on va dire, qui fraude les sanctions internationales, c'est rendu possible par notre propre incurie. Mmh. Alors, tout le problème, c'est derrière de savoir qu'est-ce que nous pouvons réellement concrètement faire. Donald Trump, lui, se réjouit de la situation puisqu'il est ravi de dire aux Européens « débrouillez-vous », ça lui permet de nous vendre encore plus d'armes. Et donc, les Européens à Copenhague ont essayé de définir une action, ce projet de mur anti-drone, sur lequel Emmanuel Macron a pointé, là aussi, le problème évident. Il l'a déclaré, il n'y a pas de dôme de fer pour l'Europe. Il n'y a pas de dôme de fer ou de mur parfait, puisqu'on parle de 3000 km de frontière, ce qui, là aussi, permet aux Américains de vendre des F-35 un petit peu plus. Plus la frontière est longue, plus on achète d'armes américaines.
Gilles, est-ce que la clé, elle est aussi là, dans cette position américaine, et puis plus largement, est-ce qu'on est dans une escalade de tensions dont on ne voit pas l'issue? C'est aussi ça, quand même, la question de l'escalade, ici en l'occurrence entre la Russie, qui semble tester tout de même en permanence notre capacité de résistance.
Je crois qu'il se passe quelque chose de nouveau. C'est pas seulement l'Ukraine, et avec l'intensification des attaques de ces derniers jours, c'est pas seulement la Moldavie où on a vu les interférences majeures sur les élections à la fois numériques et physiques, sans succès cette fois-ci, c'est l'Europe, l'Union européenne, où il y a non seulement ce que l'on avait déjà des tests sur la société, les têtes de cochon, mais c'est les tests sur l'armée. Ça, c'est vraiment l'élément le plus nouveau, avec à la fois les drones Et quand même, c'est pas dans un pays. Maintenant, c'est la multiplication des pays presque chaque jour. Pologne, Allemagne, Danemark, Roumanie, Belgique, Lituanie. Et puis, l'incursion des avions en Estonie. Donc, il se passe quelque chose de nouveau. Et par rapport à ce qu'espérait Donald Trump lorsqu'il est arrivé au pouvoir, qu'en quelques jours, ce conflit soit réglé, la confiance qu'il a manifestée envers Vladimir Poutine, on voit là une intensification et une diversification des agressions russes. Bon, ça, c'est le constat. Quelle est la difficulté, je trouve, c'est de savoir quelle interprétation on donne à cette situation. Si on écarte, et je crois qu'il faut l'écarter, que c'est une forme de représailles symétriques à l'incursion des drones ukrainiens sur les aéroports russes. Et peut-être qu'une des réponses à cette question, quelle est l'interprétation, le pourquoi, c'est de dire pourquoi maintenant. Mmh. Et peut-être que Vladimir Poutine se dit c'est maintenant ou jamais. Au sens où il bénéficie quand même encore d'une forme de complaisance américaine, que l'économie russe est affectée, mais qu'elle peut continuer à financer un énorme effort de guerre, ça correspond à une partie substantielle, très substantielle du PIB russe, et que surtout, l'Union européenne à la fois n'est pas prête, on le voit, en tout cas, n'est pas équipée sur ces attaques de drones, mais qu'elle va investir et donc qu'elle le sera. Et enfin, et je pense que c'est peut-être un des éléments les plus déterminants sur le maintenant, que Vladimir Poutine sent que l'Europe est déstabilisable. Et qu'elle est déstabilisable notamment parce que dans les grands pays européens, il y a des forces politiques qui sont pas éloignées de Vladimir Poutine et de la Russie, qui peuvent accéder au pouvoir.
Donc quand vous dites c'est maintenant ou jamais pour déstabiliser l'Europe.
Maintenant ou jamais pour déstabiliser l'Europe et modifier, disons politiquement, un rapport de force qu'il n'arrive pas à modifier autrement. La question c'est, est-ce que tout ça a une chance de marcher? Est-ce que ça ne risque pas...
Au contraire, oui.
Exactement, d'être le contraire, c'est-à-dire d'accélérer l'affaiblissement économique. Est-ce que... Alors on voit toutes les difficultés sur la flotte fantôme, mais il y a aussi eu des mouvements sur les avoirs, oui. Les avoirs russes pour financer l'Ukraine. C'est vrai du point de vue militaire où ça accélère encore les investissements européens. Et c'est vrai enfin dans l'affaiblissement dans l'opinion. J'avais parlé il y a quelques semaines d'un sondage dans lequel on voyait l'image de la Russie en France. Dans quelques jours va sortir un sondage qui a été fait dans 4 pays européens. En gros, les mêmes questions. Royaume-Uni, Allemagne, Italie, France. À la question de savoir est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise image de la Russie, on a 80% en moyenne des Européens interrogés qui disent j'ai une mauvaise opinion, dont près de 50% qui disent une très mauvaise opinion. Mmh. Et est-ce que cette menace russe est perçue? 79% en moyenne qui disent c'est une menace pour notre souveraineté. La question, c'est, on dit souvent Vladimir Poutine le maître des échecs. Peut-être que c'est en réalité le maître de l'échec.
Ouais, et on l'a vu en Moldavie.
Que on l'a vu en Ukraine. Et le grand stratège n'est peut-être pas un si grand stratège que ça.
Alors, en un mot, il est clair que les opinions européennes se sentent d'autant plus européennes et d'autant plus opposées à la Russie. Ça, c'est une évidence et on peut dire qu'il y a là quelque chose qui fédère
les Européens. Il manquait un ennemi commun depuis la chute du mur.
Voilà, exactement. Le problème, c'est que en parallèle à cela, il y a un affaiblissement économique extrêmement dangereux des pays européens, de l'Europe en général, qui risque de se payer et cette intégration par les peuples risque d'être parallèle avec cet affaiblissement qui privera l'Europe de ses marges de manœuvre. Les débats sur les avoirs gelés, par exemple, à Copenhague ont été intéressants puisque beaucoup, dont la France, se demandent mais si la garantie financière est donnée par l'Union européenne ou par les pays, ça n'est pas du tout la même chose. Si ce sont les pays, on fait quoi si l'Ukraine ne peut pas rembourser ces avoirs qu'on lui donnerait? C'est une question essentielle.
France Inter, le grand face-à-face, Le duel.
Allez, on revient en France où nous n'avons toujours pas de gouvernement, je crois en tout cas que c'est le cas. Nous avons tout de même appris une chose. Sébastien Lecornu, notre Premier ministre, a fait hier une promesse aux Français et peut-être plus encore aux députés de l'opposition.
J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'écrire la copie. C'est un outil utile, mais c'est un outil qui a plutôt été imaginé par Michel Debray pour contraindre sa propre majorité. Or, dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui ressemble aux Français, avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition.
Gilles, malgré l'immense fébrilité qui vous habite à quelques heures peut-être de l'annonce du gouvernement, est-ce que ce genre d'annonce, là, pour le coup de Sébastien Lecornu sur le 49-3, c'est de nature à tout changer ? Masquez votre enthousiasme, Gilles.
Tout changer, Thomas. Il faut rester calme. Quand j'ai entendu l'annonce de Sébastien Lecornu, en fait, j'ai une réaction en trois temps. Mon premier temps,
en 49 trois temps.
En 49 trois temps. Je vois que vous êtes en grande forme. Le premier temps, c'était de me dire c'est habile. Et ce qui est souvent le qualificatif qui était accolé à Sébastien Lecornu. C'est habile par rapport à l'opinion, parce que le 49-3 est devenu le symbole de la brutalisation du débat parlementaire et même le péché d'arrogance macroniste. Et c'est habile par rapport à la gauche qui revendiquait la non-utilisation du 49-3 si elle était amenée à gouverner. Et l'avait demandé à Sébastien Lecornu en gage de signe de bonne volonté. C'est habile parce que ça divisait la gauche entre ceux LFI qui voulaient censurer immédiatement et ceux qui vont être obligés sans doute d'attendre le Parti Socialiste. Donc, ça permet à Sébastien Lecornu de gagner du temps. C'était ma première réaction, c'est habile. Ma deuxième réaction, c'est très habile. C'est très habile parce que juridiquement, si vous renoncez au 49-3, vous avez tous les autres outils de la Constitution qui peuvent être utilisés. Et notamment, soit le texte budgétaire est rejeté, et donc on fera comme on avait fait l'année dernière par une loi spéciale pour reconduire le budget actuel, soit le Parlement peut ne pas se prononcer, et dans ce cas-là, c'est un autre article, l'article 47 alinéa 1 et 47 alinéa 2, qui permet, lorsque les délais sont respectés, au gouvernement de procéder par ordonnance. Donc, on voit qu'il y a...
Très habile
aussi politiquement, en un mot, parce que je fais le parallèle avec le conclave sur les retraites. Je trouve qu'on est dans une situation qui est assez proche, c'est-à-dire où ça vous a donné l'impression qu'il y a une négociation, mais s'il n'y a pas d'accord, il y a une asymétrie entre les différentes parties prenantes. Le MEDEF n'avait pas intérêt à ce que le conclave débouche. Eh bien là, le gouvernement peut ne pas avoir intérêt à ce que ça débouche, puisque il a son projet de loi de finances qui pourrait être adopté. Et enfin, mon dernier temps, juste d'un mot, habile, très habile, peut-être trop habile.
Oh, qu'il est malin. Merci. Je pensais que vous alliez dire très très habile.
Et non, trop habile, parce que si le gouvernement ne recherche pas de compromis, eh bien, il peut trouver la censure. Et c'est peut-être ce vers quoi nous nous dirigeons s'il n'y a pas de compromis, non pas sur la méthode, mais sur le fond.
Natacha.
Pour poursuivre ce que dit Gilles, nous allons avoir une fois de plus la joie de voir défiler sur les plateaux de télévision les constitutionnalistes qui vont mettre un coup de projecteur sur tel ou tel article de la Constitution. Les Français vont bientôt connaître par cœur la Constitution de la Ve République. Tant mieux, ça manquait cette culture-là, puisqu'en effet, l'article 47, par exemple, est très intéressant et pourrait permettre de faire passer le budget même si le gouvernement de Sébastien Lecornu tombe. On va donc savoir si le plus important pour Emmanuel Macron est de faire durer Sébastien Lecornu ou de faire passer un budget qui soit un nouveau budget et qui ne soit pas la ressucée de l'ancien. Tout cela va être peut-être passionnant. Je doute que ça plaise beaucoup aux Français qui vont en plus pouvoir assister à la foire d'empoigne à l'Assemblée nationale, puisque ça risque de mettre en lumière, en fait, une forme de caricature de posture sur ces discussions budgétaires. Et je crains qu'il y ait là une application de cette république du faire-semblant qu'on voit depuis déjà des semaines, des mois, c'est-à-dire des politiques qui en fait, ne cherche pas des véritables solutions, ne cherche pas à aboutir à un projet pour la France, mais cherche à mettre en avant certains éléments qui vont les faire briller auprès de leur marché électoral. Et là, ça risque d'être un spectacle assez affligeant.
Gilles, est-ce que, quand même, dans une classe politique qui ne brille pas par son sens de la responsabilité, en tout cas on a l'impression, est-ce que c'est pas un acte hyper responsable qu'il a quand même posé là ?
On va voir si ce n'est que une habileté ou si c'est plus que ça, ou s'il aurait fallu que lui-même commence par faire déjà des compromis sur le fond et que le projet de budget soit, on va voir, plus différent qu'il le sera sans doute de celui de François Bayrou. Natacha disait qu'on avait beaucoup progressé en droit constitutionnel, on a beaucoup progressé en droit pénal aussi ces dernières années.
Voilà.
Ces derniers jours même.
Évidemment, il y a un risque de foire d'empoigne. Après, voilà, l'espoir, c'est que le débat parlementaire retrouve sa place, y compris sur le débat budgétaire sur lequel qui est le cœur de la fonction parlementaire et qui depuis des années était réduit à la portion congrue. Donc maintenant, aux uns et aux autres de se saisir de la responsabilité qui est la leur.
Et pour paraphraser Jacques Chirac, c'est à la fin des foires d'empoigne
qu'on compte les bouses.
Qu'on compte les bouses.
France Inter, le grand face à face. Le duel.
Déjà énergivore, les centres de données ont redoublé d'appétit avec l'essor de l'IA générative qui nécessite des capacités de calcul colossales pour traiter les informations accumulées dans de gigantesques bases de données. Une requête sur ChatGPT consomme 10 fois plus d'électricité qu'une recherche sur Google.
Un petit module pédagogique de l'AFP qui montre à quel point l'IA est énergivore. C'est au cœur des préoccupations du Shift Project, le think tank, laboratoire d'idées de Jean-Marc Jancovici, qui alerte cette semaine dans un rapport « La croissance de l'IA sera insoutenable sans planification ». Ce rapport, Gilles, est en effet inquiétant et il mérite, selon vous, qu'on s'y arrête.
Oui, avant la lecture du rapport, j'avais en tête ce chiffre que vous venez de rappeler à l'instant et qui avait été donné par Luc Julia sur la consommation, la surconsommation d'électricité de ChatGPT et des IA génératifs par rapport à Google, et parallèlement l'évolution très spectaculaire de l'usage des IA génératives et notamment de ChatGPT, à 25-30% des Français qui, en moins de 2 ans, l'utilisent de manière extrêmement régulière. Dans le rapport, ils disent 1 milliard de requêtes quotidiennes dans le monde. J'ai lu aujourd'hui dans Challenge un chiffre de 2 milliards ou 2 milliards et demi. Donc, on a ces deux éléments-là en tête, et c'est pour ça que c'était intéressant, je crois, de regarder ce rapport, parce qu'il y a une forme d'extraterritorialité du numérique, comme si ce sujet-là ne pouvait pas être intégré dans le débat sur le climat, soit qu'on était inconscient du bilan, soit qu'on était indifférent, parce que c'est tellement magique et tellement extraordinaire qu'il ne faut pas se préoccuper de ses conséquences. Et donc, l'intérêt du rapport, c'est de lancer ce débat, qui est un débat ancien sur le numérique, mais qui est un débat renouvelé avec les IA génératives, et de le lancer de manière scientifiquement robuste, en prenant en compte ce qui est la grande spécificité des IA génératives par rapport au numérique, c'est-à-dire que c'est pas seulement les infrastructures qui sont consommatrices d'électricité, mais c'est le fonctionnement et notamment les centres de données. Et c'est là-dessus que se concentre le rapport, que l'on peut résumer d'une manière très simple. Le volume aujourd'hui de consommation par rapport à la consommation globale est encore relativement modeste. Hein, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et 10% de la consommation électrique totale. On voit que ça commence quand même à être significatif. Mais surtout, et c'est ça qui est le plus intéressant et le plus alarmant dans le rapport, c'est que la dynamique est absolument folle. Plus 7% entre 2004 et 2019 de consommation électrique des centres de données. Plus 13% entre 2019 et 2024. Et si la tendance se poursuit, en 2030, c'est-à-dire demain, les IA représenteraient 35% de la consommation électrique mondiale, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas tenable.
Et donc ça, je crois que ce constat-là, il est intéressant et qu'il faut essayer de réfléchir aux conséquences que l'on en tire.
Et les data centers qui doivent être maintenus à température, tout cela effectivement nécessite énormément d'énergie.
Oui, on peut ajouter qu'on a l'exemple de l'Irlande où les data centers consomment d'ores et déjà 21% de la consommation électrique du pays et il a fallu rouvrir des centrales à l'énergie fossile pour alimenter et refroidir, etc. On va vers une catastrophe absolue. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans le rapport du Shift Project, c'est justement qu'il tente de planifier tout simplement, c'est-à-dire de penser à long terme, ce que visiblement personne ne fait sur ce sujet-là comme sur beaucoup d'autres. Pourquoi ? Parce qu'il peut évidemment y avoir un travail sur d'ailleurs ça commence à être fait sur le circuit fermé pour réutiliser la chaleur qui est émise par ces data centers pour chauffer des villes, enfin bref, mais tout ça se décide, c'est-à-dire qu'il faut savoir exactement à quoi nous voulons utiliser notre énergie. Pourquoi ? Parce que, et c'est le cœur de la réflexion du Shift Project, c'est que tout ça va conduire à des arbitrages, à savoir que si nous manquons d'électricité pour nos usages, il faudra sans doute choisir entre le travail de décarbonation d'une industrie dans un cadre de réindustrialisation du pays plutôt que l'usage des data centers. Dans la mesure où ces data centers dépendent éminemment d'entreprises qui sont des entreprises américaines, il y a là une question de souveraineté absolument essentielle. Alors évidemment, on peut choisir de développer des IA frugales, et on avait parlé ici de DeepSeek, qui visiblement demandait beaucoup moins d'entraînement. On peut donc espérer que ça va s'améliorer, mais si ça n'est pas pensé politiquement, donc démocratiquement, on ira dans le mur.
Il y a aussi une IA hyper frugale, il y a un objet extraordinaire, qui a pas besoin d'être rechargé, et qui peut même se prêter, voire se donner. Gilles ?
Oui, juste un mot, je trouve en fait ça pose une question assez vertigineuse, qui est-ce que nous sommes au début de l'IA, de l'IA générative, ça a moins de 2 ans, ou est-ce que c'est le début de la fin
de la l'IA. Fin du début, le début de la
mais
fin.
Ouais. Parce que, d'abord, on sait que trop d'IA tue l'IA, c'est-à-dire qu'à un moment, si le web n'est plus que de l'IA, eh bien, il manque la matière première qui est l'information.
Ce qui est déjà le cas. Hein. On estime que déjà 70% du web, alors c'est peut-être un chiffre un peu exagéré, mais c'est le chiffre que j'ai entendu, serait généré par des IA, ce qui est quand même fou.
Et la deuxième limite, c'est que trop d'IA tue le climat. La question, c'est que Natacha dit il faudrait la planification, il faudrait que c'est des décisions qui doivent se prendre. Pour ça, il faudrait qu'il y ait un planificateur. Et c'est le problème, c'est que le planificateur n'est pas seulement un planificateur français, ni même européen.
Trop d'IA tue l'IA, trop de démocratie tue la démocratie. On va en parler parce que c'est au cœur de l'œuvre qui est le sujet d'étude de notre invité. Place au débat du grand face-à-face.
Le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Françoise Mélogneau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'y tenais beaucoup de vous recevoir dans le grand face-à-face. Vous êtes professeur émérite de littérature à la Sorbonne. Vous êtes, je crois, la grande spécialiste de l'œuvre d'Alexis de Tocqueville, dont vous éditez non seulement les œuvres complètes, mais aussi une grande biographie qui fera date, les deux, aux éditions Gallimard. On va parler de la démocratie française, mais comment ne pas commencer par les États-Unis, pays auquel on pense immédiatement quand on pense à Tocqueville, auteur en 1835 d'un livre devenu un grand classique des sciences politiques de la démocratie américaine. Et la démocratie américaine, états-unienne, devrions-nous plutôt dire, sa résistance, elle est largement éprouvée par l'administration Trump. J'aimerais vous faire réagir à ces propos du président américain, c'était à l'occasion de son discours d'investiture le 20 janvier dernier à Washington.
Ma récente élection est un mandat pour inverser totalement une trahison honteuse et toutes les trahisons qui l'ont précédée, afin de rendre au peuple sa foi, sa prospérité, sa démocratie et surtout sa liberté. À partir de cet instant, le déclin de l'Amérique prend fin.
Que dirait Alexis de Tocqueville, l'auteur de La démocratie en Amérique, s'il voyageait dans les États-Unis d'aujourd'hui, assistait par exemple à ce discours de Donald Trump? Trump incarne une forme de contestation anti-élite. Tout en s'appuyant sur un discours nationaliste fort, Tocqueville admirait les vertus démocratiques américaines, vous allez nous le dire j'imagine, tout en craignant leurs dérives. Qu'est-ce qu'il verrait là, Tocqueville ?
La question que vous posez, elle est récurrente dans les journaux américains qui titrent régulièrement « What Tocqueville would say ?» Qu'est-ce que Tocqueville dirait aujourd'hui ?
Alors, What Tocqueville would say ?
Je pense qu'il serait accablé par l'affaissement de tout ce qu'il imaginait être des garanties de la liberté. Si j'en fais la liste, l'existence de deux assemblées, la Chambre des représentants et le Sénat, dont l'une pourrait freiner les emportements de l'autre. Ben, aujourd'hui, aucune des deux assemblées ne freine véritablement l'autre.
C'est même l'inverse, parfois.
C'est même l'inverse. La justice, dont l'indépendance pouvait garantir finalement contre les emportements de l'exécutif. Ben, la justice, elle est l'objet d'attaques sans arrêt. La presse locale, au moins depuis 20 ans aux États-Unis, elle est en difficulté. Il y a beaucoup de titres qui disparaissent. Et la presse nationale, elle est en but aux attaques de l'exécutif. Or, pour Tocqueville, c'était véritablement ce qui permettait d'accroître l'esprit civique. La religion devait servir de frein aux passions politiques dans la mesure où elle était partiellement indépendante du politique. Il me semble qu'aujourd'hui, en fait, elle sert plutôt à rendre encore plus éruptives les passions politiques. Et donc, au total, l'esprit civique, qui était peut-être l'essentiel, l'esprit civique local, ça supposait un minimum de convergence des opinions, et dans une Amérique à ce point déchirée, on peut se demander ce qu'il en reste aujourd'hui.
Certes, mais Tocqueville voyait aussi dans la démocratie un mouvement inéluctable vers l'égalité, mais aussi le risque de la tyrannie de la majorité. Est-ce que c'est pas ce qui se produit aujourd'hui aux États-Unis ? Et peut-être même ailleurs ?
Alors, effectivement, pour lui, le grand danger, c'est la tyrannie de la majorité, qui ne menaçait pas en France. En France, il pense que la tyrannie du gouvernement est beaucoup plus redoutable.
Mais
la tyrannie de la majorité, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut parler des États-Unis aujourd'hui, dans la mesure où ça n'est pas, enfin, il n'est pas évident que ce soit une majorité qui soit derrière Trump pour tyranniser le reste du pays. Tocqueville était conscient, non seulement de ce risque, mais je vais vous lire une petite citation de 1837. C'est écrit à un ancien président des États-Unis. Les Américains ne savent point assez le retentissement qu'ont leurs fautes dans le monde entier et le parti que sur tous les points du globe les ennemis de la liberté en tirent. S'ils savaient cela, ils se montreraient, je pense, plus maîtres d'eux-mêmes. C'est écrit en 1837.
Natacha Polony aime bien cette citation.
il s'agit en fait de montrer d'une part le poids des haines raciales qui existe encore, et d'autre part de montrer le trouble aux États-Unis qui est né de la volonté du président Andrew Jackson de domestiquer la banque centrale des États-Unis. ce qui n'est pas non plus sans analogie avec ce qui se passe aujourd'hui.
Absolument. On va plonger dans la biographie de Tocqueville, mais restons un instant en Amérique. Pourquoi va-t-il en Amérique ?
Il y va parce que la situation n'est pas bonne pour lui. D'une certaine façon, le génie de Tocqueville vient de ses échecs. Il est magistrat, c'est une tradition familiale, c'est l'arrière-petit-fils du très grand Malesherbes, mais il est magistrat non payé, parce qu'au XIXe siècle, pour être sûr d'avoir des magistrats de bonne famille, on les mettait en stage pendant plusieurs années non rémunérés. Donc arrive la révolution de 1830, sa famille est légitimiste, ses espoirs de carrière s'effondrent, et donc il veut absolument trouver une façon de se faire une réputation d'expert sur le monde moderne, pour entamer une carrière politique. Il veut être homme politique, absolument. Et donc il part aux États-Unis en trouvant une mission non rémunérée pour aller étudier les prisons, puisqu'il était magistrat et que les États-Unis étaient très en avance. Et donc au fond, la décision de partir aux États-Unis, c'est la décision de se faire un avenir politique.
Gilles,
vous écrivez dès l'introduction, écrire la biographie de Tocqueville, c'est éclairer à travers un parcours individuel, l'histoire politique et intellectuelle du XIXe siècle et celle en amont de la Révolution. Vous êtes trop modeste parce que cette biographie est absolument remarquable et elle éclaire aussi le XXe et le XXIe siècle. Je fais le pont entre la biographie de Tocqueville et les États-Unis. Vous détaillez de manière absolument passionnante la manière dont Tocqueville écrit ses différents livres, et notamment les deux tomes de la démocratie en Amérique, les différentes moutures, les relecteurs, comment il recherche son éditeur. Et ce qui est très frappant, au-delà du fait qu'il a 30 ans quand il publie le premier tome de la démocratie en Amérique, c'est que le premier est un succès,
à la fois un succès dans plusieurs autres pays, un succès en France, et le second tome, quelques années après, est, disons, un relatif échec par rapport au premier. Pourquoi ? Est-ce que ça tient à la différence de contenu ? Est-ce que ça tient à la différence de contexte ? Qu'est-ce qui se passe pour que ce livre d'un jeune homme de 30 ans soit un succès et un succès mondial et que le deuxième, la suite de quelqu'un qui est plus installé, ne le soit pas ?
Françoise Mélogneau.
Ça tient à la différence de contenu et l'étonnant, c'est qu'aujourd'hui, c'est le livre qui avait connu l'échec qui est important pour nous, alors que le premier a par beaucoup de côtés vieilli. Le succès en 1835 tient au fait que Tocqueville décrit les institutions américaines, non pas pour les Américains, il est tout à fait étonné que les Américains s'intéressent à son livre, mais il le décrit pour les Européens, et particulièrement pour les Français. Et donc, si vous voulez, au fond, on connaissait quand même assez mal le système américain. Donc c'est une initiation à ce que peut être une grande république, alors que depuis Montesquieu, on pensait que les grandes républiques n'étaient pas possibles. Du coup, le livre, il est lu par Metternich en Autriche, il est lu par le roi de Suède, il est lu par tous les hommes politiques français. C'est un énorme succès, alors qu'il a tout juste 30 ans. La seconde démocratie, le second volume, en fait, le titre est le même, parce que l'éditeur n'est pas idiot. Il voulait profiter du succès du titre du premier volume. Mais en fait, il s'agit de tout autre chose. Et d'ailleurs, Tocqueville, au début, ne s'en rend même pas compte. Il pensait décrire les mœurs et les idées de la démocratie américaine. Et en fait, progressivement, il se met à analyser les mœurs et les idées des démocraties en général, et finalement, autant, peut-être même plus, de la démocratie en France que de la démocratie américaine. D'où un caractère apparemment abstrait de son livre, puisque c'est une réflexion sur le type des démocraties. Et pour ses lecteurs, ça paraît tout à fait arbitraire. Parce que, évidemment, sur chaque chapitre, on peut dire, mais ça ne s'applique pas aux États-Unis. Si vous parlez, par exemple, du panthéisme, le panthéisme aux États-Unis chrétien, ça n'existe pas. C'était une réalité en France. Bon. Et beaucoup de choses sont du même ordre. Quand il parle de la menace d'un César, à la fin, bon, le césarisme, ou disons ce populisme démocratique autoritaire, c'est pas une réalité importante pour les États-Unis, c'est une réalité pour la France, avec la menace d'un
pouvoir. À l'époque, en tout cas, oui.
Oui.
À l'époque.
À l'époque, absolument.
Natacha.
Alors, j'ajoute à ce qu'a dit Gilles sur cette biographie qu'elle est absolument passionnante parce qu'on y découvre des éléments de la vie de Tocqueville qu'on ne connaissait pas. Et même dans ce voyage en Amérique, par exemple, ce qui apparaît très peu et quasiment pas l'œuvre de Tocqueville, qui est son voyage au milieu des Indiens et également au Québec. Mais le voyage chez les Indiens est très intéressant parce que, vous l'expliquez, il permet de comprendre les positions de Tocqueville longtemps après sur la question de la colonisation, oui, de l'Algérie. Vous écrivez vous citez Tocqueville dans une de ses lettres qui dit « Au milieu de cette société américaine si policée, si sentencieuse, si charitable, il règne un froid égoïsme et une insensibilité complète lorsqu'il s'agit des indigènes du pays. » Et il explique que les Blancs jugent providentielle la déportation des Indiens. Ils se sont imaginés que Dieu leur avait donné le Nouveau Monde et ses habitants en pleine propriété. Toute ressemblance avec l'actualité serait d'ailleurs totalement fortuite. Et vous expliquez que de cette fatalité tragique, Tocqueville tire une loi de l'histoire. Sur le chemin de la civilisation, les plus avancés détruisent inexorablement les attardés. On entend là un petit peu de Claude Lévi-Strauss. Mais derrière, Tocqueville sera favorable à la colonisation de l'Algérie, mais avec cette idée donc qu'il garde du rapport tragique entre colons et colonisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi tout cela permet de nous raconter sa vision à la fois du drame colonial et ses espoirs de démocratie et de liberté appliqués à cette question-là ?
Françoise Mélogneau, et ça nous permettra aussi de caractériser plus profondément politiquement ce personnage étrange, difficile à classer, qu'est Alexis de Tocqueville.
Alors, les Indiens, il y est très sensible. D'abord, il y a une sympathie des Français pour les Indiens dès le début du XIXe siècle et qui reste vraie aujourd'hui. Mais il arrive à un moment clé parce qu'en 1830, on prend ce qu'on appelle l'Indian Removal Act. C'est l'acte officiel par lequel, en fait, on déporte les Indiens contre des compensations financières très faibles. Et Tocqueville est sensible à ce caractère américain qui consiste à faire des deals complètement au désavantage de populations qui sont en fait dominées. Et c'est là qu'il commence sa réflexion sur les peuples dominés. Il y est sensible. Il y est sensible aussi au Canada, parce qu'il pense que les Canadiens français sont en grand danger de disparaître précisément sous la puissance anglophone. Il y est sensible en Irlande, où il voit les catholiques irlandais opprimés par les aristocrates anglais protestants, et où il a cette réflexion absolument prémonitoire que lui fait un paysan, en fait, irlandais, que le souvenir de l'oppression ne s'efface jamais. Et donc, quand il arrive en Algérie...
Très puissant, ça.
Il n'est pas enthousiaste au début pour la colonisation algérienne, parce qu'il pense que ça ne rapportera sans doute pas grand-chose à la France économiquement. Et quand il se rallie à la colonisation, il croit à une fusion des races, comme on disait au XIXe siècle. Mmh. C'est-à-dire qu'il pense qu'en vertu de l'avancée de la civilisation, finalement, les Arabes deviendront progressivement semblables aux colons qu'on envoie. Et puis, très vite, il s'aperçoit que ça n'est pas le cas. Et donc, en même temps, il pense inéluctable la progression de la civilisation occidentale. C'est vrai aussi vis-à-vis de la Chine. Quand dans la seconde partie du XIXe siècle, on va en Chine. Et il est assez lucide pour se rendre compte que le souvenir des haines ne s'efface pas. Et qu'en fait, très vite, on a une sorte de nationalisme arabe, notamment autour d'Abdelkader.
Est-ce qu'il a la même évolution idéologique qu'un Lamartine, par exemple, au départ favorable à la colonisation en Algérie, et puis face aux violences coloniales, qui s'en inquiète, notamment pour ce que ça dirait aussi de nous, les Français, à l'époque?
Alors, il est sensible au fait que c'est totalement contradictoire avec les principes libéraux, ça ne lui échappe pas. Il est l'auteur de deux très grands rapports en 1847 sur la colonisation, mais au fond, il s'en tient à demander qu'on exerce uniquement les violences nécessaires, ce qui est fâcheux. Mais il est surtout sensible à ce qu'on donne aux colons, au moins, le type de garantie démocratique qu'on donne sur le territoire français. Sur le reste, finalement, c'est quelque chose à quoi il se résout avec une conscience malheureuse.
Thomas disait tout à l'heure qu'il était difficile de classer de Tocqueville, et c'est l'exercice que je voudrais vers lequel je voudrais vous amener. Lorsqu'il est élu député, parce que ce n'est pas seulement un penseur, ça va être aussi, et c'est ça qui est intéressant, un homme politique, lorsqu'il est élu député en 1839, vous écrivez, page 295, qu'il se classe à gauche par défaut. Et je voudrais proposer deux exercices. Si nous nous transportons en 1839, qu'est-ce que la gauche et qu'est-ce que sa gauche? Et si nous, à l'inverse, si nous amenons Tocqueville aujourd'hui, comment vous le caractérisiez idéologiquement? Est-ce que ça serait, je ne sais pas, un social-libéral?
Pas facile, hein?
Alors, la partie historique est plus simple pour moi. Il tient d'abord à être un homme politique. Pour nous, il est un grand penseur, mais lui veut d'abord être un homme politique. Et donc, quand il fait campagne, il arrive avec la démocratie en Amérique comme programme. Par une série de hasards, il se trouve candidat dans une circonscription assez périphérique, puisqu'il s'agit du Cotentin, massivement rural. Il n'est pas porté par sa famille qui est légitimiste. La famille, pour l'aider, serait même prête à lui faire un certificat de non-légitimisme. Bon, idée politiquement suicidaire.
On peut rappeler ce qu'est le légitimisme.
Le légitimisme, ce sont les partisans, en fait, de la monarchie de Louis XVIII et Charles X, c'est-à-dire des Bourbons traditionnels. Tocqueville, lui, accepte le nouveau régime. Disons, globalement, la question de la dynastie ne le préoccupe pas véritablement. Il est dans une circonscription dans laquelle il y a une assez forte hostilité aux nobles. Sa difficulté d'ailleurs, c'est qu'il doit combattre un député qui a une très grosse fortune acquise sous l'Empire et qui n'a pas le défaut d'être noble. Donc vous voyez, du coup, être à gauche, et il tient beaucoup à avoir un siège à gauche, hein, parce qu'il a beaucoup de difficultés à le trouver, tout le monde se précipite sur ses sièges à gauche autour de lui. Pourquoi avoir un siège à gauche? C'est parce que pour ses électeurs ruraux, c'est véritablement ce qui montre son attachement à la situation nouvelle. Et je dirais que là où il se sent mal à l'aise avec la gauche de son temps, ça n'est pas tellement sur les questions sociales à proprement parler, C'est sur la défense de la révolution comme technique d'accès au pouvoir par la gauche. Et puis sur un second point, il y a une gauche très anticléricale à l'époque, et Tocqueville est partisan d'une liberté de croyance sous la surveillance de l'État.
Parce que ça, c'est très important sur la révolution. L'une des grandes questions de Tocqueville, c'est comment peut-on réformer la France sans faire la révolution ? Quelle est sa réponse ?
Sa réponse, c'est qu'en fait, c'est très difficile à cause de l'éducation que nous ont donné successivement l'absolutisme et la révolution.
Si je veux prolonger la question de Gilles, parce que Gilles fait de Tocqueville peut-être un social-libéral au XXIe siècle, il y a quand même un élément à côté duquel il semble totalement passé, Tocqueville. Vous décrivez son voyage en Angleterre. Il assiste à la révolution industrielle dans tout ce qu'il y a de plus atroce. La condition ouvrière est absolument monstrueuse. Or, il semble passer à côté de cela. En tout cas, il ne l'intègre pas à sa réflexion sur la démocratie, c'est-à-dire qu'il ne semble pas voir à quel point le capitalisme féroce peut abîmer profondément la démocratie. Et on le retrouve un petit peu plus loin, en tant que rédacteur de la Constitution de 1848. Et là, autant il veut intégrer des choses, autant il élimine l'idée du droit au travail, alors même qu'il avait lui-même identifié le risque que les ouvriers pensent que la révolution a été une fois de plus escamotée. Donc est-ce que finalement son refus du socialisme, son attachement à la liberté individuelle ne l'ont pas fait passer totalement à côté de tout cela ?
Françoise Mélogneau.
Alors, je crois qu'il n'est pas seulement attaché à la liberté individuelle, puisque c'est par excellence le penseur de la participation politique. Donc, oui. Moi, j'aime beaucoup cette citation de Tocqueville, il n'y a rien de moins indépendant qu'un citoyen libre. Donc, ça n'est pas ça qu'il fait passer à côté de l'industrie. En fait, aux États-Unis, il ne va pas visiter d'usine, semble-t-il. Il ne voit pas du tout ce côté-là. Il voit les transports, il voit les ports, etc. Mais il ne voit pas les usines. C'est en Angleterre et à Manchester qu'il découvre. Là, il y a une misère atroce. On a des descriptions qui sont aussi proches de celles de Engels, etc. Enfin, c'est dantesque. Pourquoi n'en parle-t-il pas pour la France ? Bon, rappelons d'abord que la France est un pays rural dans lequel l'industrie met très longtemps à se développer. Je pense de surcroît que, à la différence de Marx, ça n'est pas un penseur de la lutte des... et de Guizot d'ailleurs, ça n'est pas un penseur de la lutte des classes uniquement comme moteur de l'histoire. Ce qu'il imagine, c'est une évolution vers plus d'égalité grâce à la pratique de la délibération publique. C'est-à-dire à partir du moment où l'ensemble des... un nombre croissant de citoyens, pas tous à son avis au début, mais un nombre croissant va participer aux décisions, à ce moment-là, la politique va pour rendre plus de soins de la condition des plus pauvres.
Gilles.
Je prolonge la question sur la Constitution de 1848. Vous disiez tout à l'heure que Tocqueville décrit les États-Unis pour les Français dans De la démocratie en Amérique. Il est député au moment où la France, en 1848, va adopter une constitution qui est, dans notre histoire, celle qui sera la plus proche des États-Unis.
La Deuxième République.
Il y contribue, vous en dites, il en est l'expert américain. Il y contribue, alors il est battu sur certains sujets, vous évoquiez tout à l'heure les deux chambres, il est battu sur le bicamérisme, mais en revanche, il est suivi sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct, masculin, mais au suffrage universel direct. Il est suivi aussi sur la non-rééligibilité du président, qui ont été deux éléments très importants. Cette constitution sera un échec, enfin, elle sera suivie très vite du coup d'État de Napoléon. Vous dites que dans ses souvenirs, donc quelques années après, vous dites il analysera cet échec comme imputable au désaccord entre les mœurs et les lois. Qu'est-ce que ça veut dire exactement,
Françoise Mélogneau ?
Oui, en fait, les mœurs françaises restent marquées par l'imaginaire de la monarchie. Et par conséquent, si vous voulez, à la fois, il pense qu'il faut une élection du président au suffrage universel, parce que c'est la marche même de la démocratie et une des grandes conquêtes, en fait, de la Révolution de 1848, que de passer à un régime dans lequel la souveraineté du peuple s'exerce pleinement. Mais en même temps, il se rend bien compte qu'il a fait une erreur majeure, hein, puisqu'il essaye même de faire réviser la Constitution pour rendre le président rééligible, parce qu'au fond, le président de la République est le seul dont le nom soit véritablement connu de la population. Oui. Bon, c'est d'autant plus vrai au XIXe siècle qu'une bonne partie de la population ne sait pas lire et que donc on fonctionne beaucoup en fait sur la rumeur, sur le discours, etc. Ça reste vrai en partie aujourd'hui.
Oui, le nom Bonaparte est l'un des seuls connus en 1848, ça c'est sûr. À vous écouter, je me demande si l'un des principaux apports de Tocqueville, c'est de pas aussi avoir pris en compte la puissance de la mémoire, la puissance de la culture dans notre manière de gouverner et de décider en démocratie.
Oui, il est très sensible au poids du passé. Il est sensible aussi, et je rebondirai quand même sur une remarque de Natacha, à ce qu'il faut apporter de nouveau. C'est-à-dire sur le droit au travail, au début, il y est favorable. Oui. Et puis arrive juin 1848, le massacre des ouvriers avec un général républicain à la tête des troupes, qui est Cavaignac. C'est une des tragédies de la Seconde République. Il y a des milliers de morts, énormément de déportés.
Retour à l'ordre.
Alors c'est un petit peu difficile de voir pourquoi il appelle au retour à l'ordre. Évidemment, il a peur, comme tous les bourgeois et les aristocrates de l'époque, ils ont très peur en juin 1848. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire ce qu'il voit après juin 1848, c'est à quel point le désordre conduit à un risque de réaction conservatrice accentuée.
Il dit un retour de bâton.
Il dit les socialistes ont pris dans nos imaginations la place que le diable occupait au Moyen-Âge. Et donc les conservateurs, et il en voit en Normandie, les paysans normands sont affolés par ce qui se passe à Paris, il voit très bien le risque d'un dérapage conservateur.
Et voilà aussi qui est très contemporain. Plus je vous écoute, plus je me rends compte de la pensée moderne de Tocqueville, y compris dans la réflexion même assez profonde sur la puissance de l'imaginaire dans les décisions politiques. Natacha.
Oui, et on pourrait ajouter qu'on voit tout au long du livre un Alexis de Tocqueville qui est convaincu que l'éducation est la condition de la démocratie. Il est intéressé par les questions d'instruction. Et vous le disiez, il est aussi fasciné par l'organisation décentralisée de la démocratie américaine et donc la question de la participation permanente du citoyen à la vie démocratique qui ne se résume pas au fait d'aller voter pour une puissance tutélaire. Éveil de la raison et pratique concrète de la démocratie, est-ce que ce serait abusé que de dire que, hélas, nous n'avons pas beaucoup suivi Tocqueville ?
Oui, mais lui-même remarque que on est décentralisateur quand on est dans l'opposition et on devient beaucoup plus centralisateur une fois qu'on est au pouvoir.
Voilà. Oui, ça c'est aussi assez moderne. Gilles ?
Tocqueville est aujourd'hui un historien célébré et un politicien oublié. Oui. Ce qui est très frappant à la lecture de cette biographie, c'est qu'il a voulu concilier les deux, la théorie et la pratique. Pourquoi ? Et pourquoi le politicien a-t-il, au moins relativement, échoué ?
Françoise Mélogneau.
Alors, je pense même qu'il a voulu faire de la théorie pour pouvoir passer à la pratique. Et il a même eu cette idée qu'il allait tester dans le Cotentin et à l'Assemblée, à la Chambre des députés puis l'Assemblée nationale, ce qu'il avait vu de positif aux États-Unis. Ça marche dans son cas au niveau local. Parce que, contre toute attente, pour un esprit qui pouvait paraître abstrait, il est élu de plus en plus triomphalement. Et il devient président du Conseil Général, et là, ça se passe bien. C'est grâce à lui que le chemin de fer va à Cherbourg aujourd'hui. Il a une vraie réussite sur le plan local, parce qu'il sait travailler sa circonscription. Il passe énormément de temps à discuter avec les gens, à envoyer ses articles, à faire des banquets, quoiqu'il ait eu un mauvais estomac. Enfin, là il a un vrai investissement. Au niveau national, ça ne se passe pas bien. À la Chambre des députés, ils considèrent qu'en fait, on n'est plus dans un temps de grands partis. J'allais dire, là aussi c'est actuel, c'est-à-dire que les questions de rivalité de personnes l'emportent manifestement sur les projections politiques à long terme. Et il est frappé par l'immobilisme de Guizot, qui... est une des causes, clairement, de la Révolution.
J'ai une toute dernière question pour vous. Vous nous avez dit qu'il avait un mauvais estomac. Et quand on travaille toute sa vie sur Tocqueville, est-ce qu'on continue à apprendre des choses ?
Il y aura sûrement des choses à apprendre, parce qu'il sort de temps en temps des documents nouveaux. Et puis, surtout, les curiosités générales des historiens, par exemple le développement de l'histoire, des sensibilités, voyez, ou des pratiques, fait qu'on voit autrement un personnage.
Qu'est-ce que vous avez appris de lui récemment ?
Je... Ben, je pense que j'étais de plus en plus sensible à la dimension sensible justement de son rapport aux politiques. Peut-être parce que on a beaucoup développé récemment l'histoire des sensibilités, oui. Le rapport au corps, etc. Et du coup, ça donne une perception nouvelle.
Merci. Merci beaucoup de nous avoir éclairé. C'était très très intéressant de parler de Tocqueville et de parler aussi un peu en creux de notre démocratie actuelle. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatt pour la préparation de l'émission, Marie Merrier pour sa réalisation et aujourd'hui Mathias Alléon à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour la seconde partie de la série Juger des crimes de guerre, anatomie d'un combat moral avec le grand juriste et écrivain britannique Philip Sands, une conversation que vous pouvez aussi déjà écouter en podcast sur l'appli Radio France.